Bonjour à tous, vous écoutez Radio Duo sur le 89.5 FM ou les www.radioduo.org. Il est l'heure du mag info de Duo des mots des soins sensibles qui laisse sa place, comme chaque troisième jeudi du mois, au Grémos, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, représenté aujourd'hui par Jean-Michel Stenner. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Flavien.
Tout va bien ?
Tout va bien.
Que vas-tu nous présenter aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, nous allons faire notre troisième retour sur la journée que nous avions consacrée le 13 novembre 2015 à la question des ouvriers immigrés dans les usines et dans la cité. Alors le 13 novembre 2015, c'est une date qui, dans la soirée, est devenue tragique, mais nous ne savions pas le jour où nous avons fait cette série d'interventions. Et nous avons déjà diffusé la première partie sur les usines, et aujourd'hui nous allons revenir à travers deux interventions, celle de Catherine Gauthier et celle de Rachid Kadour, sur la place des immigrés dans les quartiers, et plus particulièrement dans les quartiers stéphanois. Alors je rappelle que cette journée du 13 novembre, elle s'inscrivait aussi dans l'élan qui avait été donné avec l'exposition cosmopolitaine des archives municipales, une exposition commencée le 19 septembre 2015 qui se poursuit officiellement jusqu'au 1er juillet 2016, mais qui sera sans doute prolongée jusqu'en septembre prochain, une exposition qui rencontre un grand succès. Or, il se trouve que cette semaine, nous sommes dans un des temps forts de cet élan, puisque c'est la semaine de l'interculturalité du 17 au 21 mai, avec notamment le 21 mai, la diffusion du film qui a été réalisé par Catherine Gauthier avec l'aide de Sandrine Binou, photographe, sociologie de comptoir, café cosmopolite. Et c'est donc sur cette intervention de Catherine Gauthier que nous allons commencer. Alors, quelques mots sur Catherine. Donc, je rappelle qu'elle est déjà intervenue plusieurs fois. Catherine est membre du Grémos, sociologue, anthropologue, rattachée au centre Max Weber. Elle est aussi enseignante à l'école d'architecture de Saint-Étienne. Et elle travaille depuis plus de 10 ans sur les immigrés à Saint-Étienne, et en particulier sur les mineurs de la région de Timisrit en Petite Kabylie. Alors, elle a élargi son propos à la question des cafés, puisqu'elle s'est rendue compte dans son étude que les cafés étaient un lieu très important pour l'étude de l'immigration, qu'ils avaient été et qu'ils sont encore importants pour les immigrés. Je rappelle que Catherine a publié en 2014 « D'ici et de là-bas », »« Timisrit, Saint-Étienne, mémoire de mineurs », une édition du musée de Puy-Couriot et des publications de l'université de Saint-Étienne. Donc on va écouter cette intervention sur les cafés stéphanois.
Bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer encore depuis ce matin. Alors, donc, je m'appelle Catherine Gauthier, je suis socio-anthropologue et je suis chercheure au centre Max Weber et aussi au Grémos, que j'ai rejoint depuis quelques années maintenant. Et par ailleurs, j'enseigne à l'école d'architecture de Saint-Étienne. Moi, je vous parle depuis un point de vue un peu particulier. Si je rejoins le Grémos, c'est parce qu'à l'époque, je m'intéressais à la question de l'image du mineur maghrébin dans les mines stéphanoises. Et l'image au sens propre comme au sens figuré, puisque je voulais travailler sur toutes les images, toutes les archives d'images qu'on pouvait trouver sur le territoire, et qui étaient d'ailleurs au demeurant très rares. Donc, un travail socio-anthropologique sur cette population-là, que j'ai été interrogée avec des entretiens filmés jusqu'en Algérie, en Petite Kabylie, dans la province de Béjaïa, à partir de 2009. Et donc, lors de ce premier travail, les migrants que j'ai rencontrés ont évoqué assez vite dans leur parcours migratoire l'intérêt d'un lieu, d'un espace singulier, en tout cas qu'il était pour eux, qui était celui du café. Et donc j'ai fini ma recherche sur les mineurs algériens, une exposition qui s'est tenue à Saint-Étienne, un ouvrage qui en a été issu et que vous trouverez présenté ici, et puis un film aussi qui s'est fait à partir de ces entretiens réalisés en Algérie. Et puis à l'issue de ce travail, avec les personnes qui avaient travaillé avec moi sur le film et l'exposition, en particulier une photographe, on a eu envie de se pencher d'un peu plus près sur ces cafés et de réaliser un petit film documentaire. Quand je dis petit, c'est pour la taille, hein, à 26 minutes, à partir d'images actuelles de ces cafés qui sont en train de fermer les uns après les autres à Saint-Étienne, comme dans beaucoup de villes. Je parle ici des cafés des quartiers populaires. Et donc, quartiers populaires des centres anciens. Et voilà, donc on a commencé ce travail, donc, qui a évidemment nécessité un travail de recherche en amont qui se base sur un parcours des archives, en particulier des archives municipales de Saint-Étienne. Et c'est l'occasion du coup pour moi de raccrocher aussi cette journée, parce que je crois qu'on ne l'a pas bien fait encore jusqu'à maintenant, au contexte et au programme dans lequel elle se situe, la journée qui se déroule aujourd'hui. C'est en parallèle et en articulation avec l'exposition qui a lieu en ce moment aux archives municipales de Saint-Étienne et qui s'appelle Saint-Étienne cosmopolitaine. Voilà. Et qui est, oui, un travail formidable des archives qui a... On a profité pour valoriser son fonds d'archives et pour donner la parole à différents acteurs du territoire qui font un travail sur un ou l'autre des aspects de ce peuplement de Saint-Étienne. Et dans ce cadre-là, de cette exposition, l'idée est aussi de fédérer un certain nombre d'événements, d'initiatives locales qui sont liées à cette thématique et qui créent comme ça une saison culturelle autour du peuplement de Saint-Étienne. Ça fait longtemps que c'est une question qui émerge à différents niveaux de la recherche, du monde socioculturel, du monde artistique, mais on n'avait pas encore été aussi loin dans la présentation de ce phénomène local. Donc mon travail s'inscrit pleinement dans cette démarche. Voilà, donc il s'agit aujourd'hui de se demander comment les cafés ont pu être, et jusqu'où, des lieux relais de l'engagement. Voilà, donc je me suis interrogée sur les différentes places qu'avait pu prendre ce café, donc évidemment c'est un prétexte aussi. Enfin, moi je ne suis pas une spécialiste de la sociologie, de la classe ouvrière ou de la classe populaire, mais plutôt, moi ce qui m'intéresse au départ, c'est plutôt les mobilités transnationales, et c'est comme ça que j'en suis venue à m'intéresser aux migrations. Donc la question de l'espace, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et si les cafés m'intéressent, c'est parce que, comme l'ont dit d'autres sociologues avant moi, je pense à Michel Verret, par exemple, quand il parle de l'espace ouvrier, il explique que pour lui, l'espace ouvrier, c'est évidemment celui de l'usine, mais c'est aussi celui du quartier dans lequel il habite, des espaces qu'il fréquente pour ses différentes pratiques culturelles et activités sociales, et donc le café fait partie de cet espace culturel. Et ce qui me parle encore plus dans ce genre de définition, c'est que l'espace ouvrier, c'est aussi les espaces qu'il rejoint pour ses loisirs. Et c'est là que, du coup, pour moi, ça devient pertinent, parce que vous allez voir dans ma présentation que les cafés, ce sont aussi des interfaces, des lieux d'interface entre ici et là-bas pour les clients migrants ou issus d'immigration qui les fréquentent. Donc voilà les deux travaux antérieurs auxquels je faisais référence. Le livre qui correspond en quelque sorte à un catalogue développé, puisque l'exposition était surtout une exposition de photos, et puis un ouvrage qui est sorti dans le cadre du forum de la Biennale Trace de l'année dernière, qui portait sur la question de l'accueil des étrangers, et dans lequel j'ai publié un article sur la question des cafés, qui était davantage axé en fait sur les cafés pour les immigrés kabyles, alors que ce travail sur les cafés essaye de s'ouvrir à d'autres populations venues à différentes périodes et issues de différentes origines géographiques. Donc, je vous l'ai dit, c'est pour la réalisation d'un film documentaire. Et la problématique, c'est de se demander comment ce café est à la fois un lieu d'accueil, comme il est un lieu d'accueil pour tout un tas de populations, c'est évidemment un lieu commercial, hein, c'est la première chose à dire, évidemment. Un lieu d'accueil, mais aussi un lieu de solidarité, puisqu'on y échange un certain nombre de services, au-delà du service commercial, et on pourra en reparler un petit peu. Et en même temps, la question est de savoir si c'est un lieu où l'on se remémore l'histoire migratoire, comme on peut éventuellement se remémorer l'histoire ouvrière. Donc, est-ce que le café est un lieu de mémoire ? En tout cas, pour moi, ça a donc été un recueil de données, un lieu de recueil, pardon, de témoignages oraux et éventuellement de quelques supports photos. Donc, mon propos se situe sur donc, la ville de Saint-Étienne, mais qui est pris un peu comme archétype. Hein. Pour moi, c'est une ville qui permet de parler en gros des villes post-industrielles cosmopolite et qui, comme je viens de vous l'expliquer, est un lieu à partir duquel on peut étudier cette question de l'espace ouvrier et de l'espace migratoire. Donc voilà, mon travail porte sur des cafés qui se situent plutôt dans des quartiers de centre ancien, qui sont évidemment souvent des quartiers en reconversion, voire en transformation. Ça pose aussi un certain nombre de questions sur la place de ces cafés, comment ils sont tolérés, reconnus, conservés, contournés, etc. Donc ces cafés, comme ces quartiers, sont des espaces multiples et des espaces qui sont en réseau les uns par rapport aux autres dans une même ville, mais aussi par rapport à d'autres villes nationales ou encore, bien sûr, dans le cadre des échanges que les personnes ont avec leur pays d'origine ou avec le pays d'origine d'autres compagnons de travail, etc. Donc j'ai trouvé cette carte, mais en fait je ne l'avais pas projetée, donc c'est pas très net. C'est pour vous dire que donc, ça c'est les quatre grands secteurs de Saint-Étienne et en fait donc, les quartiers, les cafés sur lesquels je travaille se situent essentiellement dans le quartier de Tarentaise, donc c'est le cercle jaune qui est plutôt à gauche. Donc il y a au moins deux cafés qui se situent à Tarentaise. En fait il y en a eu d'autres mais qui ne vont pas faire partie du film parce qu'il y en a un aussi sur lequel je me suis beaucoup appuyée à Tardy et qui ne figurera pas en image mais qui m'a servi de pré-enquête en quelque sorte. Et puis un petit café turc que je n'ai pas suffisamment exploité pour utiliser. Et puis dans le quartier de Terre-Noire aussi, où j'ai étudié deux cafés qui sont tenus par des personnes qui sont originaires de l'immigration portugaise. Et puis un café-restaurant, plutôt restaurant aujourd'hui que café, mais qui a été beaucoup café dans un temps antérieur, qui est la friterie pour... généralement, beaucoup de Stéphanois connaissent cet endroit-là, qui se trouve dans le quartier Chabanel. Voilà, donc c'est plutôt la partie, on va dire, sud de la ville. Et en tout cas, des quartiers qui sont centraux, parce que même si Terre-Noire, on ne peut pas dire que ce soit un quartier central de Saint-Étienne, mais c'est au centre de Terre-Noire qui n'est pas toujours très sûr d'appartenir à Saint-Étienne. Donc ça a un côté centre-bourg qui fait qu'on peut dire que c'est un quartier populaire de centre ancien. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'avant de parler de ce lien avec l'immigration, déjà, le café... La première chose, c'est que le café populaire, c'est un lieu qui est très étroitement lié au monde du travail. Donc, quand on sait qu'à Saint-Étienne, par exemple, si on ne parle que du secteur minier, il y a eu des époques où il y avait plus de 200 puits de mine à Saint-Étienne. Je crois que ça tourne même autour de 238 ou je ne sais plus, enfin c'est... Voilà. Et bien, il y avait au moins un café par puits de mine, si ce n'est plus. Donc, ça faisait beaucoup de café à Saint-Étienne. Ce sont des lieux qui sont très associés au rythme de vie de la journée de travail et de la semaine de travail et des congés, etc. Tout ça est très lié. Et ça me fait dire que c'est un peu un lieu d'extension de l'espace usinier et comme un peu le vestiaire de la mine parce que c'est aussi le lieu dans lequel on se retrouve pour partir travailler ou dans lequel on se retrouve en sortant du travail. Et quand j'interroge des cafetiers sur quel était leur public, leurs clients, les rythmes, etc., tous m'évoquent la période de plein emploi à Saint-Étienne où les ouvriers, ou les petits artisans, ou les employés, c'est pour ça que moi je préfère parler de classe populaire que de classe ouvrière, pour le coup, se retrouvaient le matin et partaient ensemble travailler au travail, sur leur lieu de travail. Et les mineurs avaient en plus une consommation d'alcool relativement soutenue. Et j'ai quelques anecdotes comme ça de mineurs, de fils de mineurs d'ailleurs, pour le coup c'est plutôt les fils qui m'en parlent, en me disant qu'ils ont su, même sans l'avoir vu, que leur père, qui par ailleurs ne buvait jamais d'alcool, je pense à un patron de café dont le papa était kabyle, et qui m'explique qu'il n'a jamais vu son père boire de l'alcool, mais que par contre les copains lui ont bien dit qu'il s'avalait son verre de rhum tous les matins avant de partir à la mine. Voilà, donc les cafés étaient... Il y avait donc beaucoup de cafés de mineurs, donc là c'est une image d'archive. Et les bistrots étaient le lieu où on fêtait aussi un certain nombre de choses, et en particulier les départs en retraite. Et quand j'ai cherché des photos, des images de mineurs maghrébins ayant travaillé dans les mines, j'en trouvais pas. Et les premières que j'ai trouvées sont dans ce fonds Léon Leponce, dans lequel effectivement on voit quelques rares images sur lesquelles on a quelques... visages plutôt maghrébins qui sont représentés sur ces moments de festivités liées à l'activité professionnelle.
bien, nous sommes en train d'écouter Catherine Gauthier nous parler des cafés stéphanois. Nous allons continuer cette présentation d'une institution importante de notre ville ouvrière.
Voilà, et alors ce passé minier, on en trouve encore des traces dans les cafés d'aujourd'hui, et qui sont parfois tenus aussi par des descendants de mineurs venant d'Algérie. C'est le cas de ce café qui se trouve à côté du palais de justice à Saint-Étienne, qui a changé d'enseigne d'ailleurs, parce qu'il a, il a fermé pour devenir une association, puis il est redevenu café, etc. Mais du coup maintenant ça s'appelle autrement, mais il y a toujours l'idée du mineur stéphanois sur l'enseigne. Alors, donc le café, c'est donc aussi un lieu de loisirs pour la classe populaire. Et donc, c'est un endroit où on va se retrouver pour avoir un certain nombre de loisirs. Et en fait, c'est pas moi qui le dis, ni c'est pas une... comment dire, c'est quelque chose qui m'est remonté du terrain. C'est-à-dire que les gens m'expliquent que si les cafés sont en train de changer aujourd'hui, c'est parce que la société change, mais surtout la classe populaire elle-même change et elle a accès à d'autres loisirs et elle manifeste ses sociabilités, sa façon de consommer différemment. Mais que longtemps, le café, et que ça reste quand même encore un peu ça, le café c'était un lieu bon marché dans lequel se retrouver et avoir, évidemment retrouver soit les collègues, soit les voisins, soit des amis, et partager des loisirs particuliers. Donc on va le voir au fur et à mesure. Donc c'est un lieu, le café c'est aussi, alors on trouve des dynasties de cafetiers hein, à Saint-Étienne, il y a de grandes familles de cafetiers. Là on a Roland par exemple qui tient le café de l'époque maintenant et qui est petit-fils de cafetier. Son père tenait un café très connu qui se trouvait au-dessus du Clapier qui s'appelle Chez le Toine, dont on a pas mal de photos d'ailleurs aux archives. Et son père a tenu un café et lui-même donc a travaillé très petit dans le café, son fils en tient avec lui celui qu'il a pour l'instant. Mais à côté de ça, donc, il y a aussi beaucoup de gens qui ont tenu un café après avoir travaillé dans l'industrie. Alors les mines, bien sûr, mais aussi d'autres industries. Mais dans le milieu mineur, effectivement, il y a beaucoup de mineurs qui ont, au cours de leur carrière de mine, ouvert un bistrot et puis ont fini par laisser la mine ou l'ont tenu après à la retraite. Et ça a été beaucoup le cas de beaucoup de mineurs issus de l'immigration, des Polonais en particulier, et des Kabyles aussi beaucoup. Alors c'est un lieu où on a plusieurs activités populaires, le jeu de cartes, c'est des lieux où on joue à la moinche. Il y a aussi la ronda, qui est un jeu maghrébin. Et puis on y joue de l'argent, les jeux de chevaux. C'est aussi un lieu où on se restaure, à pas cher et simple. Et parfois, où on y fait la fête. Voilà. Et donc, c'est des lieux qui vont être, même quand ils... Enfin bon, on y verra par la suite. Donc c'est des lieux de rencontre. Et alors, comme je vous disais tout à l'heure, le café c'est un espace qui est un prolongement de l'usine, un lieu qui est un peu le vestiaire de l'usine ou de la salle des pendus. Évidemment, c'est aussi le café un lieu où on a du contact physique. Et pour des personnes qui ont été des migrants isolés, par exemple, c'était le seul endroit où ils avaient un contact amical, physique, avec d'autres personnes en dehors de l'usine. Alors parfois, c'est aussi dans la mixité. En tout cas, le café, c'est un lieu où on manifeste du lien et de l'attention, de l'intérêt pour l'autre, peut-être un peu différemment que dans d'autres commerces, parce qu'on est installé, on prend le temps... Il y a une régularité de la fréquentation, on finit par se connaître, etc. Évidemment, je vais très vite hein, là-dessus, sur tout ça. Je n'entre pas ni dans les concepts, ni dans les dates, ni dans les périodes. C'est histoire de brosser un peu quelque chose avec vous. Donc, essayons de voir comment le café, en tout cas aussi dans les imaginaires, est lié à la question de la lutte ouvrière. Donc, on a des images d'archives qui en témoignent dès l'industrialisation. Et si c'est un lieu de contestation, c'est aussi un lieu de répression, puisqu'on va chercher les ouvriers. Le cafetier, il a toujours eu un peu une double casquette. Il était à la fois celui qui pouvait faciliter la lutte, on le verra après avec un exemple que vous connaissez bien, et puis sinon, c'est aussi celui qui pouvait avoir un regard et éventuellement donner un peu les contestataires. Donc il y a une œuvre qui a été célèbre pour avoir aussi présenté le café comme un lieu d'organisation de la lutte, c'est Germinal de Zola. Et il y a une légende locale, alors je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une légende, qui dit que Zola serait venu dans la région et se serait largement inspiré de l'histoire de Michel Rondel. Or, la fraternelle aurait été créée à la Ricamari, enfin ce qui est actuellement la Ricamari, dans un café qui s'appelait le Café de la Mine et qui se trouvait non loin du puits de mine de Morembert, je crois. Et il se trouve que ça serait mon arrière-grand-père qui aurait tenu ce café et qui aurait donc participé à la création de la fraternelle. Je ne sais pas s'il faut y lire là une des filiations dont on a parlé ce matin, mais peut-être. Alors, comment ce café, qui est donc un lieu de convivialité, de lieu d'expression des pratiques culturelles de la classe populaire, a été un lieu qui peut nous parler de l'histoire de l'immigration et de la question de l'engagement dans cette dynamique aussi de circulation. Donc, ça a été un lieu qui a pu être, qui concerne donc plusieurs vagues migratoires. Là, je vous ai mis une photo un peu symbolique de l'immigration portugaise, puisque c'était la petite photo d'identité qu'on déchirait en deux avant de quitter le pays, dont on laissait une moitié à la famille et dont on envoyait l'autre moitié une fois qu'on avait passé la frontière. Alors, le café, d'abord, la façon dont il m'a été d'abord raconté, c'est comme lieu d'accueil de l'immigration. Donc, quand les premiers Kabyles sont arrivés à Saint-Étienne, ils n'ont pas tardé à ouvrir des petits établissements. Contrairement aux autres Maghrébins, les Algériens avaient l'autorisation d'avoir une licence puisqu'ils étaient de nationalité française. Donc, longtemps, ça a été les seuls étrangers à pouvoir ouvrir des débits de boissons. C'est aussi pour ça qu'il y avait beaucoup de Kabyles qui tenaient des bars Kabyles. Et donc, les lieux qu'ils ont ouverts leur ont servi un petit peu, d'abord, en règle générale, le commerce, c'est un secteur d'activité qui est facile pour une, en tout cas qui l'a été longtemps, pour une vague migratoire pour s'installer dans un pays, parce que ça demande peu d'investissement au départ, on peut travailler quelques temps et ouvrir un petit établissement ou un stand sur le marché. Et toutes les vagues migratoires du XXe siècle se sont d'abord exprimées de cette façon-là. Voilà, entre le commerce et le transport, c'est des lieux d'investissement économique relativement faciles. En période de crise, quand il y a moins d'embauches, etc., on peut ouvrir un commerce. Donc le bistrot, c'est quelque chose qui est facile à ouvrir. Et en plus, du coup, ça va être un lieu de rendez-vous facile. Quand on part du pays, on part avec l'adresse du café en poche et on est sûr de trouver le gîte et le couvert quand on arrive. Même si on n'a pas d'argent, on va se faire héberger quelques temps. Et le temps de trouver un travail, en période de plein emploi, ça va extrêmement vite, on va pouvoir être logé et nourri dans ces cafés. Et en plus, il y a un effet de solidarité comme ça, par roulement. C'est-à-dire que j'ai plusieurs exemples de cafetiers aujourd'hui qui sont arrivés dans ces conditions et qui ont, à leur tour, ouvert un café et qui ont agi de la même façon avec ceux qui sont arrivés par la suite comme une sorte de tradition et de devoir en quelque sorte de service à celui qui arrive, l'accueil un peu primordial. Et donc en Algérie, il y avait une adresse qui était particulièrement connue, qui était le 9 rue de la Barre. On parlait tout le temps du 9 rue de la Barre, 9 rue de la Barre. Alors moi j'imaginais un grand immeuble, le 9 rue de la Barre, voilà à quoi ça ressemble. C'était une petite buvette à l'arrière de laquelle il y avait quelques garnis, voire quelques caves, hein. C'est pas eux qui m'en ont parlé, c'est d'autres témoins qui me disaient qu'il y avait aussi des caves en fond de cour. Donc, en fait, ça se situe à cet endroit-là. C'est l'ancien emplacement de la sécurité sociale. Voilà, donc on y trouve. C'était un peu aussi l'agence d'intérim, hein, le café, parce que justement, il y avait les patrons qui venaient dans les bistrots pour boire un coup, d'accord, mais aussi pour trouver des employés. Et puis sinon, il envoyait un gars de son équipe en qui il avait confiance et pour aller recruter. Le café, c'était aussi un lieu de festivité. J'allais dire traditionnel, dans lequel on recevait des artistes qui eux-mêmes souvent étaient ouvriers et qui arrondissaient leur fin de mois en chantant et en faisant le tour des petites colonies kabyles, par exemple, puisque là il s'agit de Slimane Azim, qui se situait dans le nord de la France, dans le sud, un peu partout, et ils faisaient des tournées et ils se produisaient dans les cafés. Et donc il y a des cafés qui étaient tout petits ici, mais quand il y avait Slimane Azim qui arrivait, le cafetier il en appelait carrément au commissariat pour qu'on vienne faire un peu la police autour de son café, parce qu'il recevait 80 personnes alors que son bistrot ne pouvait en contenir que 20. On m'a parlé aussi évidemment du rôle qu'ont tenu les cafés dans l'accès au droit, comme on l'a dit ce matin, on ne savait pas lire et écrire, enfin beaucoup étaient en situation d'illettrisme. Donc ceux qui étaient là depuis plus longtemps et qui avaient appris à écrire un peu, qui connaissaient bien la France, qui connaissaient ses rouages, les problèmes administratifs, etc., se mettaient dans une arrière-salle du café et remplissaient les papiers, aidaient à écrire des lettres au pays, etc. Et dans ces cafés, les femmes ont tenu des rôles particuliers, les femmes des cafetiers. Quand c'était justement des cafetiers étrangers, parfois ils étaient en couple avec des femmes françaises et ça leur permettait de tenir un café. Et ces femmes françaises, souvent aussi, avaient cette fonction un peu d'assistante sociale informelle en remplissant leurs papiers et parfois même en tenant leur compte.
Bien, nous avons donc entendu Catherine Gauthier parler de ces cafés qui ont joué un rôle si important dans l'histoire d'immigration. Je crois qu'on peut retenir un certain nombre de choses. D'abord, ce lien sur lequel elle insiste, le lien entre la présence des cafés et l'histoire des luttes ouvrières. Le café est aussi pour un militant qui a été victime d'une révocation suite à une grève, un moyen de reconversion. Elle nous a dit que le cafetier pouvait faciliter la lutte, qu'il pouvait être aussi délateur. Elle n'a pas employé le terme, mais c'est un petit peu ce qu'elle voulait dire. Je voudrais rappeler qu'en 1948, lors de la grande grève des mineurs, les CRS opéraient des rafles dans le quartier de Tarentaise et en ciblant, bien entendu, les cafés immigrés pour créer un climat d'insécurité. Le deuxième point qui me semble intéressant, c'est ce qu'elle relève, la distinction entre les origines et le fait que les Kabyles pouvaient plus facilement ouvrir des cafés puisqu'ils étaient français. C'est quelque chose qu'on oublie. Ils n'étaient pas citoyens français, mais ils étaient français. Enfin, le troisième point, peut-être le premier qu'il aurait fallu signaler, c'est que ces cafés sont des points de chute pour des ouvriers qui arrivent en étant totalement déconnectés par rapport à le monde qu'ils viennent de quitter. Ils ont émigré et ils deviennent immigrés en arrivant en France. Donc c'est pour eux un moyen de retrouver une certaine chaleur, une certaine solidarité. Et on l'a vu que cette solidarité va jusqu'à l'aide apportée pour la défense aux droits des travailleurs.
Merci pour ces précisions, analyses et ajouts, Jean-Michel. Rappelons que cette intervention de Catherine Gauthier a été captée lors de la troisième rencontre de l'histoire ouvrière. C'était en novembre dernier, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, le 13.
Voilà, et en plus des interventions parlées, il y avait aussi de la musique pour vous relaxer un peu, prendre un peu de recul. Et vous avez accueilli ce jour-là Stefano Moscato et Manuel Mendes. Mmh. Ce sont des interventions musicales qu'on a largement diffusées sur cette antenne, mais je vous propose de revenir sur un titre interprété par Manuel Mendes ce jour-là, ça s'appelle Capa Negra, Rosa Negra.
Bonjour à tous ceux que j'ai pas eu le temps de...
Alors, il n'a pas la voix de Catherine Gauthier, Manuel Mendes, mais
et il chante en plus.
Voilà, il fait vibrer le fado de ses ancêtres, le voici.
Rosa negra, sem roseira. Capa negra, rosa negra, sem roseira. Abre tua, vem nos meus ombros, como ao vento uma bandeira, como ao vento uma bandeira. Vira costas à saudade, abre-te bem nos meus ombros, vira costas à saudade. Capa negra, rosa negra, bandeira de liberdade, bandeira de liberdade. sou livre como as aves e passo a vida a cantar. Eu sou livre como as aves e passo a vida a cantar. Coração que nasceu livre não se pode acorrentar, não se pode acorrentar.
Manuel Mendes avec Capa Negra, Rosa Negra.
Eh bien, voilà. Nous allons entendre maintenant, après Catherine Gauthier, l'intervention, des extraits de l'intervention de Rachid Kaddour. Donc Rachid Kaddour, géographe, docteur en géographie, qui est chercheur au laboratoire ISM de l'université Jean Monnet, a soutenu en 2013 une thèse dont je vous donne le titre « Quand le grand ensemble devient patrimoine ». Réflexion sur le devenir d'un héritage du logement social et la fabrication du patrimoine à partir du cas exemplaire de la région stéphanoise. Pour les auditeurs qui seraient un peu effrayés par un tel titre, je rappelle aussi que Rachid a participé à la publication de deux petits ouvrages de la série Trames urbaines, édités par Ville d'Art et d'Histoire sous la direction de Sandrine Sanquer. Le premier s'appelle « Beaulieu, patrimoine urbain du XXe siècle ». Il a été édité en 2005, mais il est toujours possible de le trouver, notamment aux archives municipales. Le second s'appelle « Les tours, symbole de ville » et date de 2014. Enfin, Rachid a fait notamment une intervention sur le thème des tours Eiffel dans les grands ensembles, débat autour des démolitions de la muraille de Chine, de la tour plein ciel. C'est donc cette réflexion qu'il fait sur le devenir de ces quartiers qui ont été bâtis dans les années 60-70, dont certains ont été l'objet de restructurations importantes. Alors je signale aux auditeurs que le son est un peu moyen parce que Rachid a parlé debout en projetant un certain nombre d'images. Donc on vous prie de nous excuser d'avance, mais son propos est tout à fait intéressant. À lui.
C'est Rachid Kaddour, je suis enseignant à l'école d'architecture de Saint-Étienne, moi aussi, géographe de formation, et je vais vous présenter quelques petits extraits de ma pièce qui a été soutenue en 2013. Alors du coup, moi je vais rester à Saint-Étienne aussi, dans un quartier populaire, c'est enfin, comment on définit ça, mais moi aussi, je vais vous parler des quartiers du sud-est de Saint-Étienne, Beaulieu, Montcherret, principalement. Et je vais vous parler de ce qui s'y passe actuellement en termes de rénovation urbaine, notamment. Alors moi aussi, je vais être sur des questions de mémoire. Je vais essayer de montrer, pour coller à la thématique du jour, à l'engagement, je vais essayer de montrer que dans l'investissement, dans des démarches et des travaux de valorisation de mémoire dans ces quartiers-là, il y a une forme d'engagement. Et du coup, je vais essayer de voir comment cet engagement ensuite participe ou pas à un processus plus global qui est la patrimonialisation de ces tendances. Alors la patrimonialisation, ça fait un gros mot qui veut dire en fait qu'une partie des grands ensembles du sud-est de Saint-Étienne deviennent patrimoine, ils sont reconnus comme tels aujourd'hui, en particulier Beaulieu. Et alors ce processus-là qui est en cours, qui est mené un peu par des institutions, récupère ou non certaines mémoires, certains travaux mémoriels qui se font. Pas tous, c'est ce que je vais essayer de montrer là. D'accord ? Donc, en deux temps, un engagement dans des travaux mémoriels de la part d'habitants, et puis après, ça, comment ça participe ou pas à un processus plus global, plus institutionnel. Je vais découper mon intervention en trois temps. Un tout petit détour que je ferai le plus court possible par l'occupation de ces grands ensembles, un peu dans mon histoire. Ensuite, je vous montrerai justement une série de travaux qui mobilisent la question des mémoires et du patrimoine. Et puis en dernier, du coup, j'essaierai de faire une interprétation à partir de ça, sur comment toutes les mémoires participent ou non ou pas au processus. Alors, dans la première partie, donc vous présenter ces grands ensembles rapidement, je ne sais pas si tout le monde connaît, et en prenant comme clé de lecture en fait leur occupation sociale pour montrer qu'il y a différentes catégories de population. Ces quartiers-là. Merci. Donc, le premier de ces grands ensembles, c'est Beaulieu, fait en 1953, pour répondre à la crise du logement. On a vu sur certaines des photos et dans le fond le pont, qu'il y avait une situation du logement à Saint-Étienne assez, si ce n'est dramatique, en tout cas extrêmement inquiétante. Et pour faire ça, pour faire face, on s'est lancé, la ville s'est lancée, avec le tracteur dans la construction de grands ensembles. Je ne fais pas toute l'histoire, mais le premier de ces grands ensembles, c'est celui donc de Beaulieu qui se trouve juste un petit peu au-dessus du cours Fourvière. Ensuite, d'autres vont suivre, on le voit ici sur cette carte postale. Beaulieu n'est que la première étape d'un processus plus large d'aménagement donc, de ces grands ensembles, avec la Marandinière qui est en bas, Montchevin avec sa fameuse muraille de Chine qui a été brûlée en 2000, et puis d'autres opérations qu'on ne voit pas qui sont de l'autre côté, à la Palle et à la Ménard en copropriété. Donc Montchevin se distingue effectivement par sa grande muraille de Chine, qui était bien connue dans l'histoire stéphanoise. Et donc, un petit peu vite, pour le coup, je peux prendre le relais, c'est là, c'est ça. Et donc, un petit mot de l'occupation initiale de ces quartiers-là, parce qu'on a des cartes postales vraiment à la livraison. Donc, chacun des grands ensembles du sud-est, au lieu Marandinière en Cholet, est occupé plutôt au départ par une population relativement équilibrée, presque en effectif égal, d'ouvriers spécialisés et d'ouvriers qualifiés, doublés de fonctionnaires. Donc, des catégories qu'on dirait aujourd'hui des moyennes et ouvrières populaires. Voilà, tout juste Montchevin se distingue par le fait d'avoir une population plus jeune, du fait d'avoir de plus grands logements, puisque étaient accueillis à Montchevin les familles agrandies des deux premières opérations, Beaulieu et la Marandinière. Les plus pauvres, les moins aisés, je ne sais pas trop comment dire, les plus pauvres, des demandeurs d'HLM à l'époque, sont pas accueillis dans ces grands ensembles-là, restent en dehors du parc le plus souvent, donc dans les logements qu'on a vu tout à l'heure sur des images, ou alors dans des petites cités HLM moins poussées, je ne sais pas si on peut dire bas de gamme, en tout cas, sont ici en transit avant plus tard d'accéder à ces logements-là. Donc ça, c'est la situation initiale, et puis après, ça va changer à partir du milieu des années 70 à la fin des années 70, en particulier à Montchevin, qui va connaître une paupérisation. Les plus aisés, dont je parlais tout à l'heure, vont aller vers d'autres choses, la propriété ou d'autres espaces, le centre-ville ou périurbain. Et puis pour occuper les logements et faire entrer les loyers qui permettent de rembourser les prêts contractés pour construire ces logements-là, d'autres populations un peu plus pauvres vont enfin finalement intégrer ces grands ensembles-là. Donc toute cette historique rapide pour vous dire qu'il y a un basculement, en tout cas à Montchevin, avec l'accueil, une paupérisation progressive de la population à l'extrême fin des années 70. Et le mouvement va être encouragé. Il va y avoir un projet de réhabilitation sur ce quartier-là qui va avoir pour effet d'accélérer le mouvement de paupérisation. Et j'ai mis un truc d'image, je crois, d'ethnicisation. Juste un petit peu avant, pardon. L'idée, je vous ai mis cette citation qu'on ne va pas forcément relire, mais c'est à peine voilé, voire pas voilé du tout, qu'il y a eu une sorte de regroupement de population maghrébine sur ce quartier-là. Donc une phrase de l'ancien maire du Manchel. Donc voilà, le projet de réhabilitation de ce quartier-là va avoir un peu l'effet inverse de ce qui avait été initialement défini, et va entraîner la paupérisation, l'ethnicisation, et puis la montée de la concentration de la pauvreté va entraîner d'autres problèmes, échec scolaire, délinquance, etc. Je vais un peu vite, mais le résultat, c'est que 10 ans après la réhabilitation, le maire de Thiolière décide de démolir la muraille de Chine. Et les locataires sont principalement relogés dans les autres quartiers du sud-est. La muraille de Chine est la première étape d'un projet plus vaste qui là est en cours, enfin qui est en train de se terminer, qui est terminé quasiment, de rénovation, de remodelage complet de ces quartiers-là, avec des démolitions qui se poursuivent, notamment dans tout le secteur de Montchevin, au niveau de la rue Pierre-Loti de l'autre côté de l'autoroute par rapport à la muraille de Chine, puis sur des grandes gares qui se trouvent à la Marandinière. Et à la place, sont reconstruits des logements de plus petite taille pour accueillir, en HLM ou en privé, pour accueillir, enfin, il est visé d'accueillir ici le haut de la population HLM en termes de revenus, ou dans des logements privés des catégories moyennes. L'idée, c'est sous le vocable de la mixité sociale, d'essayer d'attirer d'autres populations, un profil social un peu plus élevé dans l'ensemble de ces quartiers. Donc attirer d'autres populations, maintenir les populations de place dans les quartiers où il y a une mixité, je pense à Beaulieu en particulier, qui accueille beaucoup d'étudiants, de retraités et de petites familles, parce que ces logements sont petits. Donc déconcentrer les familles en difficulté, sans aller par la démolition, et puis essayer d'attirer des populations nouvelles. Donc en fait, un gros remodelage, mais donc, du spatial, mais qui a pour objectif du social à travers. Parfait, pour vous parler un petit peu de ces populations. Donc maintenant, ce que j'ai essayé de faire dans un deuxième temps, évidemment que ces interventions lourdes, ces déménagements ne vont pas sans poser la question des traces, des mémoires et du patrimoine. Démolir des bars dans lesquels les gens ont habité pendant des années, ça va amener une espèce de besoin de travail de deuil et du coup d'investissement dans des travaux de mémoire. J'ai essayé d'en faire, j'ai fait un repérage parce que je visais un inventaire que j'ai espéré exhaustif. J'ai toujours raté des travaux, surtout que je ne vais pas tous vous les présenter là. Je vois en plus Antoine Rabat là où j'ai peut-être raté des vidéos, je ne sais pas, on discutera après. Voilà. Donc maintenant je vous les présente. Alors, la première série de travaux, c'est les travaux autour des démolitions pour accompagner la démolition dans le cadre d'un travail, on va dire, je disais tout à l'heure, de deuil. Là, un travail fait avec les enfants de Montchevel qui s'appelle Murmure de Mural, un recueil de poèmes et de dessins faits par les enfants. Comme ça, par exemple. C'est un travail qui a été quand même assez médiatisé à sa sortie, donc peut-être que ça vous fait écho, vous vous en souvenez de ce travail-là. Ensuite, les habitants, par-dessus ça, c'est pour les enfants, et puis pour les personnes plus adultes, il y a une volonté aussi de se retrouver entre anciens locataires à la veille de la démolition pour justement recueillir des témoignages, partager des expériences, etc. Donc ça va donner lieu à des fêtes pendant lesquelles, sur les murs, on met des grandes feuilles et puis les gens peuvent écrire des témoignages. Donc ça va se faire pour la muraille de Chine, sauf que les feuilles sont disparues, perdues, j'ai pas pu les retrouver. Par contre, j'ai pu retrouver en 2008, à l'occasion d'une autre démolition de la barre, une barre de Pierre Loti, cette fois des témoignages qui ont été reportés. Et on m'a dit, des personnes qui étaient présentes aux deux, m'ont dit que la couleur des témoignages était un petit peu toujours la même. Désolé, c'est une diapo un peu dense. Je vais vous la rémâcher, on va dire, en vous lisant un peu. Donc c'est plutôt des témoignages de personnes d'origine plutôt maghrébine, arrivées donc dans un deuxième temps à Montchevel, qui témoignent beaucoup ici autour d'amitié, de solidarité, de partage. Ça c'est plutôt pour la première. Dans la deuxième et le troisième témoignage, on voit surtout beaucoup de souvenirs écrits et de mémoires écrits autour de vie communautaire, autour d'habitudes ou de rites musulmans. Donc la période du ramadan dans ce quartier-là, il y a beaucoup de choses écrites sur ça, parce que c'est une espèce de bulle pendant l'année où les gens vivent d'une certaine façon. Les mariages, les décès, les dits baptêmes, etc. Il y a beaucoup de choses qui sortent sur ça. Dans l'ensemble, parce que c'est vraiment une sélection, je vous ai fait dans l'ensemble des présentations. Et puis il y a beaucoup de choses aussi sur un espace qui ressort sur un ressenti, sur le fait qu'on n'a pas trop demandé d'avis aux habitants avant de démolir, donc voilà un petit peu, et ce qui transparaît dans ces témoignages.
On continue encore avec Rachid Kadour qui nous parle du destin contrasté des quartiers sud-est de Saint-Étienne entre 1960 et aujourd'hui.
Autour d'un travail de deuil, et puis après un travail plus institutionnel fait autour de ça, il y a donc une série de films dont celui-ci, que j'ai trouvé vraiment plutôt bien fait, puisqu'il fait intervenir des témoignages d'habitants, pour le coup, des deux générations, des primo-locataires, on va dire, des premiers occupants, et des derniers, toujours dans cette idée donc, de garder une mémoire, et puis, on doit le dire un petit peu plus loin, de laisser une trace de cette histoire. Donc là, plutôt des choses autour de la démolition. Dans un deuxième temps, mais sur un autre quartier, ça va être sur Beaulieu, d'autres travaux qui mobilisent la question des mémoires, mais au sens plus, mémoire bâtie, mémoire urbaine de Saint-Étienne, mémoire architecturale, avec le label patrimoine du XXe siècle qui est donné en 2003 à ce grand centre du fait de sa composition un peu originale, vous l'avez vu sur la première photo. Donc, un label qui est donné par le ministère de la Culture, c'est un label qui vise à identifier dans l'histoire du XXe des bâtiments intéressants, significatifs de l'histoire du XXe siècle, et à partir de l'obtention de ce label, un autre travail fait par Saint-Étienne, Ville d'Arrêt d'Histoire, on a une représentante ici même dans la salle, autour justement des 50 ans de Beaulieu, donc en 2003, en 2005, pardon. Un travail donc, avec de la signalétique patrimoniale pour parler de ce patrimoine architectural, avec un livre aussi, mais aussi ça prend une dimension mémorielle aussi avec la reconstitution d'un appartement comme dans les années 50, à partir de témoignages d'habitants qui viennent raconter et qui viennent en plus aussi donner ou prêter des objets des années 50 qui s'avaient gardés dans les placards, etc. Donc là aussi, un investissement des premiers locataires dans ce genre de choses, ils viennent témoigner, participer, etc. Donc voilà, je vous dis un repère qui n'est pas forcément exhaustif, je vous ai mis les choses les plus significatives, et dans la chronologie telle qu'elle est, plutôt autour de la démolition, après ensuite autour de la belle, et puis autour du 51 de Gaulle. Qu'est-ce que j'ai mis là? Oui, ok. À signaler aussi un film fait par l'école primaire aussi à l'occasion des 50 ans de Gaulle. Et donc, troisième partie, donc on voit qu'un engagement existe bel et bien dans ces travaux, pas de tous les habitants, mais en tout cas d'une partie significative de personnes qui veulent s'investir là-dedans. Et maintenant, j'ai essayé cette question-là de la replacer dans l'histoire des commerçants, en tout cas au cœur de ce qui fait leur actualité, c'est-à-dire ce grand projet de rénovation urbaine, et au cœur de l'enjeu qui traverse ce projet, c'est-à-dire l'histoire du peuple.
Merci. Et nous allons écouter Stefano Moscato, qui était un autre intervenant musical de cette journée d'études. Est-ce que tu peux peut-être replacer Stefano Moscato dans son contexte ?
Alors, Stefano Moscato, qui appartient à l'immigration italienne, mais des années 1940-1950, et qui va donc nous interpréter Simarita Rosa.
Bien, j'ai cru que tu allais me laisser le mauvais rôle de devoir le prononcer. Merci d'avoir fait ça. On écoute Stefano Moscato.
Vieni la primavera, i mennoli su in giuri, lu fuoco di l'amore, lu mori ma dormo, l'accetti sa si codono, facendo discorsetti di quanti cosi venni, ma mi fanno. Marita rosa, sarire pipinetta, e io, ca sogno bella, mi voglio marita. Si marita rosa, sarire pipinetta, e io, ca sogno bella, marita un'uncinetta. Tanti picciotti belli che passano di sa strada, ma tutta una guardata alla me casa dà. Certo sto desiderio distrugge la mia vita, mi voglio fare zitta, mi voglio marita. Sì, ma Marita rosa, saride pipinetta, e io...
Bien, avec Stefano Moscato, c'est une voix venue de Sicile et qui nous rappelle que nous avons donc la soirée du 12 novembre 2015. Écoutez, la musique sicilienne proposée par Stefano Moscato et la musique portugaise proposée par Manuel Mendes. En prélude à notre journée du 13 novembre consacrée aux immigrés de l'usine à la cité. Nous étions en train d'écouter Rachid Kadour qui nous parlait de la question du logement dans les quartiers sud-est de Saint-Étienne et nous avons écouté encore son troisième point sur le rôle, sur l'aspect de la mémoire dans ces quartiers aujourd'hui restructurés.
C'est ça, on rembobine un petit peu la bande et on retombera sur la troisième partie.
Donc, je m'étais dit, voilà, replacer cette question des mémoires et de la patrimonialisation au cœur de l'actualité. Et ce qui ressort, c'est plusieurs choses. Donc, il est possible de dire dans le projet d'ensemble sur ces quartiers sud-est, dans la reconfiguration et le projet de peuplement, de repeuplement, une tentative de retour à l'état initial des grands ensembles du Sud-Est. C'est pour ça que j'ai fait tout ce détour sur l'histoire. L'idée, c'est un peu de revenir à cette époque où il y avait une relative mixité, ou en tout cas, les HLM accueillaient, et les grands ensembles accueillaient une part assez large de la population. C'était fameux en termes de revenus, de profils sociaux, etc. On le lit bien à travers donc, le fait de faire des plus petits logements, ou de faire même des logements privés, carrément qui ne sont plus du HLA, qui sont en accession, etc., pour essayer sur cet espace-là de retrouver le truc initial. Et ça se traduit donc, par le maintien de la population d'origine là où elle est à peu près restée. Je pense à Beaulieu, où il y a beaucoup de gens qui sont restés là depuis les années 50, et où en tout cas les profils restent relativement mixtes, même si c'est un petit peu en train de changer. Et puis du coup, Beaulieu, qui l'a garder un petit peu ce fonctionnement-là, cet accueil à la population, sert de modèle pour réinvestir et reconstruire l'ensemble des autres grands ensembles qui, eux, sont transformés. Et de modèle y compris au sens architectural, puisqu'on le voit bien là, la reconstruction à la Marandinière après la démolition se veut une reproduction en schéma, comme ça, de ce qu'on trouve à Beaulieu, comme on a vu le miroir. Et donc, tout ça, j'ai trouvé que ça ferait une sorte de retour aux sources, un petit peu de retour à l'état initial, qui participe d'une réhabilitation, réhabilitation au sens bâti, mais aussi réhabilitation au sens juridique, retour à l'état initial, restitution d'anciens droits, etc. Et c'est ça, cette idée de retour aux sources, qui fait un processus donc de patrimonialisation au-delà de l'architecture du label, il y a une espèce comme ça de choses qui se passent. Et donc dans une dernière diapo, je crois, avant-dernière, pardon, j'ai essayer de mesurer maintenant comment les différentes mémoires participent ou pas, est-ce qu'elles sont prises en compte ou pas, et comment les différents engagements des populations sont pris en compte ou pas dans ce vaste processus. Donc, en réalité, les institutions encouragent, soutiennent, j'aurais pu mettre récupère ou instrumentalise aussi, l'ensemble des travaux mémoriels qui font référence justement à l'état initial. Donc du coup, il y a le travail autour du label, l'architecture du XXe siècle, des années 50, etc. Ça le passe, mais surtout, tous les travaux qui peuvent donc rappeler, je pense en particulier à tout ce qui est fait autour des 50 ans, notamment l'appartement des années 50, où il y a le soutien de l'organisme qui met à disposition le logement et qui fait les travaux à l'intérieur, la ville qui porte le projet, et tout ça participe en fait implicitement, indirectement, à ça, à cette idée de retour aux sources. Inversement, les autres travaux, qui eux font plutôt un rappel de la situation de Montchola avant la démolition, juste avant, c'est-à-dire la paupérisation, le grand ensemble ghetto, etc. Valais, les habitants ont besoin, on le sent, dans l'investissement, de témoigner, de laisser trace, etc. Bah, tout ça a finalement très peu de soutien des institutions qui sont dans une autre démarche. Donc je pense aux fêtes qui sont faites sans moyens, exclusivement avec les moyens des associations et des habitants. Je pense au fait, par exemple, que j'ai pas pu retrouver tous les témoignages à la veille de la démolition de la mur à Béchine, c'est perdu, donc ça n'avait pas de traces dans le débat public, dans l'espace public, etc. Et je pense même au film sur la démolition, donc, je vous ai montré tout à l'heure juste la jaquette, où le maire, Michel Schuller, n'a pas tenu à témoigner dans le film, alors que c'est un acteur essentiel de cette histoire-là, et que le film, pour le coup, était fait par la ville, en l'occurrence par l'opéra théâtre et dans la culture. Donc un petit peu ce que je voulais montrer. Désolé, elle est un peu dense celle-ci. Et oui, donc ça redit un petit peu ce que je disais plus haut finalement, les mémoires des premiers locataires, plutôt ex-ouvriers et fonctionnaires, on a des gens très actifs qui parlent beaucoup dans la presse, qui ont été des militants dès l'origine et qu'on retrouve beaucoup la démolition dans les films, dans la presse, etc. Ça sont plutôt valorisés, alors que le reste est extrêmement peu visible. Malgré l'engagement, voilà. Et j'allais dire que ça paraît un peu anecdotique cette histoire-là, de parler 20 minutes de ça, c'est un peu. Ça pourrait sembler de l'ordre de l'anecdote, mais en fait, la question mémorielle et patrimoniale, qui est pourtant bien ouverte, finalement, elle questionne la place de chacun dans la société, c'est dans l'ordre du symbolique, mais ces personnes-là qui sont passées dans ce quartier-là n'ont même pas pu laisser une trace, finalement, de leur passage, et quand on sait que justement, c'est des personnes qui voient la déconsidération de leur habitat, puisque leur habitat ne mérite même pas d'être conservé, il est démoli. Surtout, qu'on a le chômage qui questionne aussi quand c'est une migration de travail, vous n'avez pas de travail pour le coup. Voilà, ça questionne un peu, et donc je trouvais que même dans l'ordre du du symbolique, que malgré l'engagement dans les travaux de mémoire, bah, cette question des mémoires pose aussi la question de la place des populations, des catégories populaires et immigrées dans l'espace public. Merci.
Fin de cette intervention de Rachid Kadour pour les troisièmes rencontres, journée d'études organisée par le Grémos en novembre dernier. Retour de Jean-Michel Stenner peut-être sur cette intervention de
Oui,
Rachid.
Alors je crois qu'il faut remercier Rachid d'avoir terminé sur cette note un peu sensible qui peut étonner, mais c'est vrai que chaque individu a quand même un lien particulier avec les lieux où il a passé son enfance et quel que soit le type d'habitat, on peut comprendre, moi je l'ai vécu avec mes élèves du Portail Rouge, on peut comprendre que la disparition de certains de ces logements ait pu toucher au cœur pose un problème un peu de sensibilité. Merci aussi à Rachid d'avoir rappelé que la question du logement est un problème central de l'histoire ouvrière et de l'histoire de l'immigration, particulièrement à Saint-Étienne où on avait un gros problème de taudis. Hein, Saint-Étienne, capitale des taudis, c'est une expression qu'on trouve en 1949, où l'on a fait très gros efforts de construction de nouveaux quartiers. Si je voulais être un peu malicieux avec Rachid quand il parle du retour aux sources, je pourrais lui dire que le retour aux sources, c'est le retour au pâturage qu'il y avait dans les années 40 avec les vaches. Mais c'est vrai que ces quartiers des années construits dans les années 50 avaient un certain souci de beauté, notamment le quartier de Beaulieu où est installée la radio depuis laquelle je parle aujourd'hui. Et que petit à petit, on a densifié, on a construit un petit peu, on va dire, n'importe quoi, comme si les architectes s'étaient vus prendre de court par les fabricants de béton. C'est un petit peu une des clés du problème. Outre le fait que l'on a voulu faire de Montchauvet un quartier pour familles nombreuses, que ce quartier s'est donc paupérisé, ethnicisé, comme le dit Rachid, tout ceci donc... ce sont des choses que beaucoup de Stéphanois connaissent, mais qui restent, qui ont laissé plein de traces. C'est ce que Rachid a essayé de nous montrer aujourd'hui. Pour conclure, donc, Saint-Étienne, ville cosmopolitaine depuis longtemps, depuis qu'elle est une ville industrielle, mais un cosmopolitisme particulier du fait de la présence si importante d'immigration ouvrière. C'est un petit peu ce qui rejoint l'intervention de Catherine et celle de Rachid. Alors, l'agenda, nous sommes en cette semaine de l'interculturalité à Saint-Étienne.
C'est toujours très dur à dire, ne t'inquiète pas.
Voilà, c'est déjà bien commencé, mais ce soir, donc, un concert participatif de Canticum Novum au Centre Social de Solor. Demain, c'est à l'entrepôt café à 19h30, 20h30 qu'ont lieu l'intervention, une conférence gesticulée par Anaïs Vaillant. Samedi, la diffusion du film de Catherine Gauthier au centre social, au gymnase du centre social du Babet. Bref, autour de cette histoire de l'immigration, Saint-Étienne a beaucoup fait pendant cette année 2015-2016. Je voudrais rappeler aussi que le jeudi 26 mai, je n'ai pas l'horaire précis, mais pour les auditeurs qui sont intéressés, allez voir sur le site du Musée de la Mine, « Quand la mine chante », autour d'un ouvrage récent qui vient de paraître d'un recueil des chansons de mineurs, par les acteurs du Trouble Théâtre. Et puis, pour terminer, l'émission, l'exposition dont j'ai parlé, l'exposition cosmopolitaine, et j'ai l'information maintenant précise, elle est prolongée, c'est sûr, jusqu'au 30 septembre 2016. Enfin, nous aurons une prochaine émission le jeudi 16 juin, comme on sera au mois de juin, et comme nous serons pour le 80e anniversaire du Front Populaire, le Grémos la consacrera à l'histoire des congés payés.
Très bien, le Grémos a retrouvé sur cette antenne de duo effectivement les troisièmes jeudis de chaque mois et la prochaine c'est donc effectivement le 16 juin.
Merci à Dio, merci à Flavien.
Merci Jean-Michel, merci le Grémos, on se quitte maintenant et à la prochaine.